OK, puis il y a aussi quelque chose que faut souligner juste avant de passer au sud, à la prochaine étape, c'est que il y a aussi tout de suite après cette fameuse confession de Pierre et puis avant la transfiguration entre les deux, on voit Pierre qui va reprendre le Seigneur quand le Seigneur va annoncer justement sa mort et sa résurrection, puis il va le reprendre. Et puis le Seigneur va reprendre Pierre par la suite d'une manière très sévère et qui pourrait être très marquante hein, si le Seigneur avait pas donné à Pierre cette capacité de recevoir cette parole où il lui dit « Arrière de moi, Satan, parce que tes pensées sont pas les pensées de Dieu, mais des pensées des hommes, etc. » Imaginez ce pauvre Pierre. Je sais pas si vous vous rappelez, mais je suis dans une section précédente, je me rappelle pas laquelle exactement, mais on avait souligné que le Seigneur avait eu plusieurs rencontres personnelles avec beaucoup de personnes. Je pense que c'était genre 38, quelque chose comme ça. Puis dans ce tableau-là, des rencontres personnelles entre le Seigneur et les individus qu'il rencontrait, on pouvait noter que Pierre, il avait eu plusieurs entretiens personnels avec le Seigneur. Là, je pense que c'était près d'une dizaine en tout et partout. Il l'a pas eu facile, là, Pierre. Je veux dire, se faire reprendre de cette manière-là, lui, probablement qu'il voulait bien faire. Hein, à Dieu ne plaise, ça t'arrivera pas, Seigneur, franchement. Puis voilà, il se fait reprendre, mais sévèrement par le Seigneur. Et tout ça va contribuer à former son caractère quelque part, mais c'est pas facile d'être formé par le Seigneur, là. Je veux dire, ça prend l'humilité, hein, puis d'accepter de se faire reprendre comme ça par le Seigneur, puis voilà. Mais Pierre, il va laisser faire le Seigneur quelque part, puis il va être humilié à travers tout ça, mais il va devenir aussi un pilier de l'Église primitive. Et puis que c'est beau de lire ses épîtres et en particulier là, sa dernière lettre, là, le témoignage que Pierre laisse à la fin, assez remarquable. Mais il a fallu qu'il soit formé et brisé et personne n'échappe à la main du Seigneur pour nous châtier, pour nous former, nous transformer. Et puis chacune de ces étapes assez intenses hein, entre Pierre et le Seigneur qu'on voit, ben, c'est fait partie de sa formation pour devenir celui que le Seigneur avait prévu qu'il soit éventuellement. Donc, en quelque part, c'est un message d'encouragement pour nous aussi de réaliser que le Seigneur va nous former, puis parfois, ben, ça peut être difficile. Il permet des choses, hein, des fois qui nous échappent, mais complètement, puis, mais le Seigneur est au contrôle, et puis il sait ce qu'il fait. Je vois cette incompréhension-là constamment avec les apôtres à travers cette dernière année-là de ministère public où ils se posent beaucoup de questions, ils ne comprennent pas tout ce qui arrive et puis ils savent pas quoi faire et puis ils reçoivent des instructions du Seigneur qui leur échappent totalement, mais au bon moment, ils vont pouvoir s'en servir puis le Seigneur va faire son œuvre à travers eux. On arrive à la dernière section au sud où j'avais intitulé à l'époque, et puis vous complétez cet espace-là, c'est un voyage incognito. Donc, si vous utilisez l'expression, vous pouvez l'écrire aussi là, à côté de Sud, Jésus est incognito en Galilée. Donc, plus ça va, plus, dans un sens, là, peut-être pas généralisé, là, parce qu'il y a quand même des événements très publics qui vont arriver encore, même à la toute fin, mais quand même, on voit que ça se resserre un peu, puis ça se referme, ces ministères, c'est plus spécifique, plus centré vers les apôtres et des groupes en particulier. Et puis aussi, parfois, le Seigneur, on le voit prendre plus de temps là, et s'éloigner des foules, se retirer à l'écart, être tout seul avec ses disciples, puis se concentrer sur eux et sur leur formation. Il y a trois étapes là-dedans. À nouveau, le Seigneur annonce sa mort et sa résurrection. On le voit dans le chapitre 9 de Marc. Puis, à nouveau, à côté de A, là, vous pouvez y écrire ils ne comprennent pas. C'est un point d'interrogation, tout simplement. On voit que les apôtres ne comprennent pas. Ça leur échappe totalement, ça, ce concept-là, que Jésus, leur Messie, celui qui ne cesse de démontrer qu'il est le Messie, le Fils de Dieu, c'est évident, puis il parle de mort, de crucifixion, de résurrection, de rejet. Enfin, tout ça leur échappe totalement. Puis on le voit encore dans ce passage-là. Le passage des impôts est super intéressant, hein, c'est tout un miracle du Seigneur. Chaque fois que je vais à la pêche au printemps, j'espère trouver ce type de poisson qui va avoir mes impôts dans sa bouche. Non, je blague, mais en fait, c'est quelque chose de remarquable que le Seigneur, tu vois tous les détails, contrôle tous les détails de la situation. Moi, je me suis demandé, Pierre, est-ce qu'il s'est dit par la suite, ben, le Seigneur, il va toujours payer mes impôts, hein, comme ça, il va toujours faire en sorte que il va avoir de l'argent dans la bouche du premier poisson venu, ou c'est pas ça que le Seigneur voulait lui enseigner, c'est évident, puis je suis certain que Pierre n'a pas compris ça, on le voit dans la suite des choses, mais que Dieu était parfaitement au contrôle, qu'il est souverain, puis qu'il fallait lui laisser les choses entre les mains. Voilà. Des textes comme ceux-là, tu te dis, mais qu'est-ce que ça peut bien enseigner exactement? Puis des fois, je pense que l'accent, on ne le met pas au bon endroit. Puis c'est pas un texte là, qui nous dit, faites confiance au Seigneur, va vous faire trouver de l'argent ou des biens matériels un peu partout, là. C'est évident que c'est pas ça que ça enseigne, mais il est souverain, il est au contrôle. Et puis, il faut lui faire confiance, quoi qu'il arrive. Il y a cette discussion qu'on. Parfois, j'ai envie de dire, mais c'est complètement ridicule d'arriver à la fin de tout ce qu'ils viennent de vivre avec le Seigneur. Puis, qu'est-ce qu'ils font? Ils se demandent qui est le plus grand parmi eux. Ça révèle le cœur humain. Que voulez-vous? Puis, les disciples eux-mêmes vont apprendre à se connaître eux-mêmes, puis à prendre conscience qu'ils doivent disparaître et puis laisser le Seigneur prendre toute la place. Ils n'étaient pas encore tout à fait arrivés, hein, à la déclaration de Jean-Baptiste, il faut qu'ils croient ce que je diminue. Ils se demandent encore qui est le plus grand parmi eux. C'est assez pathétique de les voir se poser cette question-là. Donc, peut-être sur la carte, là, pour m'assurer qu'on remplisse chacun des endroits. Donc, on avait cette alternance entre le nord et le sud deux fois. Tyr et Sidon étaient entre parenthèses, côté de nord, la première fois qu'au sud, on pouvait inscrire les 4 000. Et puis au nord, soit décrire la confession de Pierre ou Transfiguration, enfin, c'est deux événements qui sont liés de très, très près. Les taxes là, au sud où le Seigneur Jésus montre qu'il est en plein contrôle, qu'il est souverain, qu'il connaît toutes choses ici, tous les détails de tout ce qui va arriver. Bien sûr que c'est un Dieu qui pourvoit selon sa volonté aussi. Donc, on peut inscrire ça à côté, entre parenthèses. Dans ce qui suit dans vos notes de cours, c'est comme un retour sur ce qu'on vient de voir dans le tableau, mais en mettant l'accent sur certains points particuliers. Donc, on veut insister sur des choses. Et là, on va considérer de façon plus particulière l'interaction entre Jésus et l'opposition des chefs religieux juifs, son interaction avec les non-juifs et puis les 12. Mais on a déjà beaucoup touché à ça à travers l'exposition avant. Donc, ici, on va passer quand même assez rapidement. Donc, au point A sur vos notes de cours, vous inscrivez opposition. Donc, ça, c'est au point A. Et puis, sur la carte, la vie de Christ. Tout en bas, tout en dessous là, de l'alternance nord-sud, vous avez cette flèche qui pointe vers la droite et les points ABC. Donc, premier point A, vous pouvez écrire OPP pour opposition, tout simplement. Et puis, entre parenthèses, inscrivez soit leader ou chef, en pensant au chef religieux, bien sûr. Je ne sais pas si le terme leader, on l'utilise dans le monde francophone beaucoup. Au Québec, là, on l'utilise beaucoup, beaucoup ce mot-là. C'est même difficile de trouver un mot en français pour remplacer ce mot-là, leader. C'est vraiment compliqué. Je pense qu'on pourrait écrire chef là, ou conducteur, ou je ne sais pas, à côté. Et puis, au point A aussi, c'est l'opposition, vraiment l'opposition. Et puis, on lit dans vos notes de cours, on lit ceci. Les leaders religieux d'Israël étaient les principaux adversaires du Seigneur Jésus. Ce sont eux qui ont éventuellement poussé le peuple à demander la mort du Seigneur Jésus. Ils étaient opposés au Seigneur pour les quatre raisons suivantes. Donc, il y a probablement beaucoup d'autres choses, mais ce sont peut-être les quatre raisons principales pour lesquelles les chefs religieux juifs, les leaders religieux, s'opposaient au Seigneur. Premièrement, son humble origine. Vous inscrivez ça dans vos notes de cours. Son humble origine. Et puis, on peut le discerner dans ce texte de Jean 7 où il est dit ceci. Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, les pharisiens, leur dit, « Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? » Ils lui répondirent, « Es-tu aussi galiléen? Examine et tu verras que de la Galilée ne sort point de prophète. » La Galilée, c'était le territoire des gentils particulièrement. Beaucoup de Juifs vivaient là, bien évidemment, surtout autour de la mer de Galilée, dans quelques villages, mais c'était aussi un territoire qui était cohabité avec des non-Juifs. Et donc, pour les chefs religieux de la Judée, de Jérusalem en particulier, c'est un territoire impur. Et même quand on voyageait par obligation dans ce pays-là et qu'on revenait, dès qu'on sortait du territoire de ses frontières, on secouait la poussière de nos pieds pour montrer le détachement complet. Puis c'était important de passer par les rituels d'ablution, de purification par la suite. Et il y avait beaucoup d'autres points comme ça. Par exemple, changer la monnaie qui venait de la Galilée au temple pour pas utiliser la monnaie galiléenne dans le temple. Alors, il y avait un mépris pour cette région-là, et en particulier la ville de Nazareth, qui à l'époque du Seigneur apparemment est à peine un village d'une vingtaine de familles, avec aucun commerce, pas d'entreprise là-bas. Probablement que Joseph avait sa boutique de charpentier à Tsipori, qui était à 3 kilomètres au nord-ouest. Donc, franchement, c'était un endroit totalement méprisé. Puis, on le voit, le mépris là, que les pharisiens, les chefs religieux juifs avaient envers cette région et envers ceux qui pouvaient provenir de là-bas. C'est toute une insulte, dans un sens, de dire à l'un des leurs, « Es-tu aussi galiléen? » C'est vraiment un terme de mépris ici. Puis ensuite, leur déclaration n'a aucun sens parce que Jonas, c'est un prophète galiléen de Gat-Hépher en Galilée. Alors, c'est incompréhensible ce qu'ils disent là. Puis c'est comme si, quoi, ils avaient oublié pendant un moment ou est-ce qu'ils avaient du mépris envers Jonas lui-même en tant que personne, je ne sais pas, mais c'est bizarre de dire ça, qu'il n'y a pas de prophète qui sort de la Galilée quand en réalité Jonas était de là-bas. Ce n'était même pas une déclaration solide, ça. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est une raison pourquoi ils rejetaient le Seigneur, son humble origine. Ils avaient probablement oublié qu'il était né à Bethléem, dans la maison de David. Ça, ils avaient probablement oublié ça. Ensuite, on a le choix de ses disciples et de son entourage. Ceux qui l'acceptaient là, dans son entourage, dans sa communion. Vous avez une petite note de bas de page, la note 22, qui vous dit que la plupart de ses disciples étaient galiléens. En fait, si on comprend bien le livre des Actes des apôtres, tous les apôtres étaient galiléens, à part Judas, qui, bien sûr, a quitté le groupe éventuellement. Et puis, à l'intérieur même du groupe des 12, on se rappelle qu'il y avait un publicain, Matthieu, appelé Lévi. Ça, c'est spécial parce que techniquement, Lévi, si on comprend bien, ce nom-là était porté par des descendants de la tribu de Lévi. Il aurait pu être sacrificateur. Il est probablement dans une famille sacerdotale. Mais au lieu de servir Dieu au temple, il servait les Romains en Galilée. En étant un publicain, ce gars-là, en fait, il avait tout fait dans sa vie pour être haï de tout le monde. Là, c'est assez évident, c'est impressionnant pour ça. Mais il faisait partie du groupe des 12 et puis il y avait un zélote là-dedans aussi là, qui était complètement à l'opposé. On l'a vu dans les groupes pro-Rome ou contre-Rome. Bref, l'entourage de Jésus, ça c'est ses apôtres, mais ça va plus loin que ça. On lit le verset qui suit de Marc 2, verset 16. « Les scribes et les pharisiens le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie. » J'ai lu, je pense que c'est, hier dans la soirée, je lisais dans un livre, je ne me rappelle même plus c'est lequel. On est en pleine nuit ici, hein? Je ne me rappelle plus les détails, mais j'ai lu dans un livre que l'expression « les publicains » est presque toujours associé, si ce n'est pas toujours, à des gens de mauvaise vie, comme quoi là, que c'était vraiment des groupes méprisés, puis ce n'est pas le genre d'entourage là, que tu pouvais établir ta crédibilité, ça. Mais le Seigneur était entouré constamment, non seulement de Galiléens, tous ses apôtres étaient Galiléens, puis en plus, ben, il y avait des publicains là-dedans, puis en plus, ben, il y avait dans son entourage des gens de mauvaise vie, des gens reconnus ou classifiés comme étant des grands pécheurs, hein, de la part des chefs religieux juifs, bien sûr. Alors, il dit, comment ça se fait, qui? Votre maître, hein, puis ça, c'est comme une terminologie genre votre rabbin, là, celui qui vous enseigne, là, votre façon de penser, de voir, de vivre, de marcher dans la vie. Qu'est-ce qu'il fait avec des gens de mauvaise vie? Quel type de maître que c'est ça? Quel genre de rabbin vous avez, vous, à votre tête? Ça n'a aucun sens. Donc, c'était la deuxième raison pourquoi Jésus était en général rejeté par les chefs religieux juifs, les leaders. Et puis, au point 3, on voit l'attitude du Seigneur envers les traditions rabbiniques. Donc, ça, c'est un aspect qu'on a vu ce soir en... excusez, ce soir... Aujourd'hui, en considérant les textes qu'on a vus, l'attitude générale du Seigneur qui était complètement détachée de ça, puis ça faisait qu'il enfreignait souvent donc les traditions religieuses, et puis voilà pourquoi il détestait le Seigneur aussi. Et puis, mais le Seigneur, comme il est dit dans Marc 7, verset 8, hein, il les reprenait sévèrement, ce qui allait jeter de l'huile sur le feu. Déjà que par son attitude, il était détesté parce qu'il n'obéissait pas, ne suivait pas les traditions. Puis en plus, le Seigneur leur met ça devant eux, hein, vous abandonnez le commandement de Dieu, vous observez les traditions des hommes ou la tradition des hommes. Donc, bref, non seulement il enfreignait cette tradition, mais en plus, il les dénonçait dans ce qu'il faisait. Alors, rien pour... changer la donne de la façon dont il le voyait. Et puis finalement, son identification au Messie, le fait que Jésus s'est clairement présenté comme étant le Fils de Dieu, comme étant le roi, comme étant le Messie. D'ailleurs, on le voit dans les accusations qui sont faites contre lui plus tard dans Luc 23. Nous avons trouvé cet homme, et puis pour eux, c'était pas plus que ça, un homme, un charpentier qui vient de Nazareth, cet endroit méprisé. Puis il se dit lui-même Christ roi. Et là, c'est clair que c'est une allusion directe au Messie juif, celui que pourtant ils attendaient, mais clairement qui ne cadrait pas avec leur attente à cette époque. Voilà pour ce qui est des chefs religieux et de l'opposition. Pourquoi qu'ils ont été tellement opposés au Seigneur? Ces quatre raisons-là sont probablement les quatre raisons principales. Malgré tout, Jésus a eu de l'interaction avec beaucoup de gens, très peu avec les chefs religieux, sinon que pour les condamner ou dénoncer leur attitude. Et puis, c'est presque toujours dans des situations de conflit quand il est avec les chefs religieux. Mais on le voit dans cette interaction avec les gentils. Donc, au point B, gentil, et vous inscrivez aussi sur la carte la vie de Christ à côté de B, gentil. Peut-être en parenthèse, je vous suggère d'écrire Syro pour Syro-Phénicienne, peut-être juste Syro, vous rappelez cette femme cananéenne, Syro-Phénicienne, que nous avons regardée tout à l'heure. Hein, je pense qu'on a exploré ça en détail, puis on peut maintenant répondre à la question que signifie l'attitude et la réponse du Seigneur à l'égard de cette femme. Ça signifie simplement, on se rappelle, que Jésus déclare que la priorité de la bénédiction de Dieu va à Israël. Mais n'exclut pas, bien sûr, les non-juifs, parce que tous ceux qui se tournent par la foi vers lui, et c'est très souvent des non-juifs qui font ça, hein, puis que Jésus souligne à quel point ils ont une foi grande. C'est chez des non-juifs que Jésus fait ça. Et puis voilà, mais ils doivent comprendre la priorité du plan de Dieu, puis ils l'acceptent par la foi, et c'est ce qui fait la différence. Et au point C, bien sûr, de l'interaction avec les 12, c'est ce qui a marqué le ministère public du Seigneur pendant ces 6 mois dans la dernière période galiléenne. Donc, on peut inscrire les 12 au point C, également le chiffre 12, hein, ça, c'est plus simple sur la carte. Et puis, entre parenthèses, tu es. Moi, c'est ce que j'ai inscrit sur la carte et tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Puis, c'est la déclaration de Pierre, cette fameuse confession qu'on trouve là. Un point tournant dans le ministère public du Seigneur, parce qu'à partir de cette conversation-là et de cette confession-là, Jésus va annoncer sa mort et sa résurrection. Gardons ça à l'esprit, que c'est là que, d'une manière particulière, que Jésus va insister sur sa mort et sa résurrection à venir. Et c'est aussi dans ce contexte-là que le Seigneur Jésus va aussi enseigner aux disciples qu'ils vont devoir prendre leur croix. On utilise ça maintenant presque comme un slogan, prendre sa croix, puis pour toutes sortes de choses banales. Bon, je dois aller pelleter la neige aujourd'hui, je vais prendre ma croix. Mais c'est vraiment à côté de la plaque de penser comme ça avec cette expression, parce que Prendre sa croix, là, ça signifie carrément mourir, hein? Puis la croix, elle est pas associée à autre chose que ça. La croix, c'est la mort. Donc, prendre sa croix, ça signifie de mourir à soi-même. Donc, c'est dans un sens spirituel, bien sûr, et ça peut aller même dans un sens littéral pour certains disciples, mais c'est tout le temps une question de mort quand on parle du sens figuré de la croix. Et Jésus va enseigner non seulement sa propre mort, sa crucifixion, sa résurrection, mais il va aussi parler aux disciples qu'eux-mêmes, ils vont devoir accepter de mourir à eux-mêmes de plus en plus pour laisser la place au Seigneur. Ils auront le privilège d'être exposés à l'expérience de la transfiguration, comme on voit au bas de la page 43 de vos notes de cours. Et le commentateur, en fait, c'est un théologien, Lewis Sperry Chafer, qui appelait la transfiguration un avant-goût du royaume qui vient. C'est comme si Jésus avait permis non seulement de voir Jésus dans sa gloire, en plein cœur, hein, d'événements quand même troublants, puis de Pierre là vient de vivre là quelque chose d'assez intense avec le Seigneur en étant rabroué, aussi en vue de la crucifixion à venir. C'était waouh, c'est comme une espèce de baume là de voir Jésus dans la gloire, mais c'est un avant-goût aussi de ce qui s'en vient, d'être dans la présence glorieuse de Dieu. Quand on voit la nuée, ou le concept de nuée dans le Nouveau Testament, sauf dans un passage, il me semble que c'est dans Jude, où c'est utilisé de façon figurée pour parler des faux docteurs, la nuée, mais dans tous les autres textes où les questions de nuée dans le Nouveau Testament, ça parle de la présence glorieuse de Dieu, que ce soit avec le retour du Seigneur Jésus, que ce soit sur la montagne de la Transfiguration, il y a la présence de la nuée glorieuse. Les Hébreux appelaient ça la gloire Shekinah. C'est le terme hébreu pour parler de la nuée, Shekinah, et donc c'est la présence glorieuse de Dieu parmi son peuple. Ils ont pu avoir ce coup d'œil, enfin ce prévisionnement, un avant-goût, un preview, comme on dirait chez nous en anglais, là, un preview du royaume à venir. Maintenant, c'est quand même une expérience importante que la transfiguration. Puis, je vous ai apporté quelques remarques sur la page suivante, enfin, trois remarques au sujet de la transfiguration et de l'événement de la transfiguration. Premièrement, on sait qu'il y a cette voix qui s'est fait entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Puis on dit, à quelle autre occasion la voix du Père s'est-elle fait entendre? Il y a deux occasions où le Père parle audiblement dans le ministère public du Seigneur. Et la première fois, c'est lors de son baptême. Vous vous rappelez, c'était une pleine révélation de la Trinité. C'est incroyable. Jésus, dans un corps d'homme, il est là, présent dans le Jourdain, dans les eaux du Jourdain. Le Saint-Esprit qui même vient sous une forme corporelle, une colombe pour qu'on le voie. Et puis le Père qui fait entendre sa voix des cieux. Donc, tu as une pleine révélation de la Trinité au baptême de Jésus, au début de son ministère public. Et puis là, c'est la seconde fois que dans les évangiles, on entend le Père parler audiblement. Et c'est à la transfiguration qu'il redonne le même témoignage, hein, de son Fils bien-aimé. Écoutez-le, hein, puis portez attention à ce qu'il dit et à ce qu'il fait. Ensuite, la question B, c'est une autre remarque au sujet de la transfiguration. On se dit, en quoi cette expérience était-elle éprouvante pour le Seigneur Jésus? Est-ce que la transfiguration a été un moment de joie ou un moment d'épreuve pour le Seigneur? C'est assez subjectif comme question quand même, mais ça nous oblige dans un sens à regarder le texte, puis essayer de le voir de la façon dont le Seigneur Jésus a pu le vivre. Puis j'avais lu un commentateur qui avait dit, qui avait souligné le fait que Jésus venait d'exercer ses 2 années et demie de ministère public, vous savez, puis de la pression qui montait de plus en plus, le rejet qui se faisait de plus en plus ressentir. Hein, on est en pente qui dégringole, là. Vous voyez là dans le tableau la vie de Christ, hein, on est aux 6 mois, on commence un peu comme d'une façon imagée, mais à dégringoler vers la croix. Et puis le Seigneur Jésus qui est là tout à coup dans la gloire, cette gloire dans laquelle il était auparavant. Puis c'est comme s'il goûtait à nouveau la gloire qu'il avait quittée, laissée pour venir auprès de nous. Et pendant un court instant, le voilà à nouveau dans cette gloire-là. Rappelez-vous la prière du Seigneur, où il parle d'être restauré, d'être glorifié à nouveau dans cette gloire-là qu'il avait auprès du Père avant de venir. Ben, la transfiguration, c'est, il est carrément replongé dans cette gloire-là quelque part, bien qu'étant encore dans ce corps, mais il est dans la gloire, comme dans cette présence de Dieu avec même Moïse et Élie auprès de lui pour discuter avec. C'est vraiment, ça devait être éprouvant comme expérience en tant que dans son humanité. Donc voilà, en tant qu'homme, de vivre la présence glorieuse de Dieu, c'est une première là, dans la vie terrestre du Seigneur là, depuis sa naissance, d'être dans une telle expérience. Donc après toutes ces années de croissance, de ministère public, tout à coup d'être dans la gloire qu'il avait auparavant, en vue même de la crucifixion, ça devait être quelque chose comme expérience. Je trouve que c'est intéressant de porter attention à ça. Et puis au point C, la question C, qu'est-ce que les disciples ont appris de cette expérience? Qu'est-ce qu'ils ont appris de la transfiguration? Il y a beaucoup de choses, hein? Entre autres, je pense à Pierre. Ça lui a confirmé que ce que le Seigneur Jésus était, son identité, mais aussi son propre appel, et puis son mandat, son ministère d'apôtre par la suite. Et quand il va confirmer cette expérience-là plus tard, hein, il va dire, nous étions avec lui sur cette sainte montagne quand il est apparu dans la gloire. Et pour Pierre, c'est un fondement sûr sur lequel il peut s'appuyer pour continuer dans son ministère et persévérer. L'apôtre Pierre qui va passer les 30 prochaines années avec dans son esprit la pensée continuelle que lui-même allait mourir martyr. Il savait, Jésus lui avait dit qu'il allait donner sa vie, il savait qu'il allait mourir en étant lié et en étant conduit là où il ne voulait pas être conduit. Et ça, c'est une expression idiomatique qui parle qu'on va le mettre à mort, on va l'exécuter. Imaginez. Je ne sais pas là, si le Seigneur m'apparaissait aujourd'hui et me disait, Gilles, tu vas être éventuellement, tu vas finir exécuté, puis tu vas être martyrisé pour moi, puis voilà, et puis là, il s'en va, puis j'ai aucune idée quand ça va arriver, puis ben, tous les jours, je dois vivre pour lui, puis marcher avec lui. Pierre, c'est un homme comme vous et moi, là, puis c'était ça sa vie. Mais il a vécu non seulement avec cette connaissance-là, mais avec l'expérience de Jésus dans la gloire. Et j'imagine que Pierre a dû beaucoup s'appuyer là-dessus, revenir à cette grande expérience-là plus tard pour continuer, pour persévérer et aller jusqu'au bout. C'était exceptionnel dans le cas de Pierre ce qu'il a vécu, c'est vrai, mais son témoignage nous donne beaucoup de courage et nous encourage nous-mêmes à aller de l'avant. Mais je pense à tous ceux qui étaient là, en fait, les trois qui étaient là d'une manière particulière. Ils ont appris à regarder à Jésus seul dans l'expérience de la transfiguration. Hein? Quand Moïse et Élie sont disparus, ils ont relevé les yeux, ils ne virent que Jésus seul. Ils vont apprendre cela maintenant, pendant tout le restant de leur vie, à regarder à Jésus seul et à lui faire confiance. Voilà. Et quand on arrive à la fin de cette période, bien, il ne reste maintenant qu'à peu près 6 mois avant la crucifixion du Seigneur. On est au milieu de la deuxième année du ministère public. En terminant cette période-là, nous allons inscrire sur la carte la vie de Christ l'événement particulier qui a marqué le début de cette période-là, c'est-à-dire le déplacement du Seigneur Jésus dans le territoire de Tyr et de Sidon dans Matthieu 15, 21. Alors, vous pouvez inscrire ça sous dernière période galiléenne, en dessous du 6 mois dans le carré qui est là. Inscrivez quelque part là-dedans, Matthieu 15, 21, Jésus va à Tyr et Sidon, et c'est ce qui va inaugurer cette période-là de 6 mois. Ça va? On pourrait peut-être prendre une petite pause ici pour des questions, s'il y en a, avant d'entrer dans la période judéenne et la période péréenne.
Oui, j'ai plusieurs questions. Peut-être tout d'abord une question, je ne sais plus si tu en avais déjà parlé, mais est-ce que le mépris des chefs juifs par rapport à la Galilée est lié en fait à cette idolâtrie ambiante qu'il y a dans cette région?
Ce qui est intéressant, c'est de se rappeler, c'est que d'un point de vue historique, c'est Israël même qui a maintenu l'ambiance idolâtre dans cette région, avec Dan et Bethel, et puis les veaux d'or qui avaient été établis là-bas par Jéroboam. Mais et ça va rester. Mais bon, c'est vrai que par le fait qu'il y a beaucoup de gens des nations qui vivent dans cette région, il y a probablement aussi, ça vient avec la culture, hein, ils ont apporté certains aspects de leur culture. Ça vient avec le fait qu'ils aient probablement des idoles. Mais fondamentalement, je ne crois pas que enfin, dans les révélations écrites de Dieu, l'accent n'est pas nécessairement mis là-dessus, est simplement mis sur le fait qu'il y a beaucoup de non-juifs qui vivent dans cette région-là, et c'était suffisant. C'est même pas une question de s'ils sont dans l'idolâtrie. Oui, c'est clair que ça va accentuer toute la séparation et le mépris qu'il y a envers eux, mais c'est surtout du simple fait qu'ils ne sont pas du peuple d'Israël. Ça n'en prenait pas beaucoup, hein, pour avoir du mépris, là. C'était suffisant, ça. Je crois que c'est dans le Talmud de Babylone qu'il y a. Est-ce que c'est là que. Enfin, il y a quelque part, il y a une tradition qui disait que les non-juifs avaient été préparés pour alimenter l'enfer. Ça vous donne une idée, là. Et que si par erreur un juif avait. S'était dirigé vers là, Abraham se tenait aux portes pour intercepter puis l'empêcher de tomber dans l'étang de feu. Ça fait partie de certaines traditions des chefs religieux juifs qui méprisaient les non-juifs.
Merci. Alors une question d'Émilie en rapport avec Marc 9, 29 qu'on a vu dans la première session ce matin. Donc je rappelle ce verset où Jésus dit, cette sorte donc de démon ne peut sortir en aucune façon si ce n'est par la prière et par le jeûne. Alors elle pose la question, est-ce qu'il ne faut pas penser que le fait de jeûner est obligatoire pour cela? Ou alors pourquoi est-ce qu'il a dit, il a fait cette remarque?
Je suis en train de réfléchir. Je ne suis pas en train de m'endormir là. Je suis en train de réfléchir au phénomène de critique textuelle. Premièrement, le jeûne dans l'Écriture, techniquement, il y a deux types de jeûne. C'est jamais une loi mosaïque, c'est jamais un commandement, le jeûne. Ça fait pas partie d'obligation morale ou religieuse. C'est plus une réaction spontanée, une discipline personnelle. Et donc, on trouve deux types de jeûne dans le Nouveau Testament en particulier. Il y a le jeûne religieux imposé par les rabbins, dont il est fait allusion dans la parabole du publicain et du pharisien, où il est dit « je jeûne 2 fois la semaine ». Donc ça, c'est le type de jeûne pharisaïque qui était imposé, entre autres, aux pharisiens les lundis et jeudis, ils devaient jeûner. Mais il y a aussi le jeûne qui est simplement une réponse spontanée du cœur devant une situation particulière. C'est-à-dire dans des situations où c'est solennel, où on ressent le besoin de s'abstenir de nourriture pour se concentrer vraiment uniquement sur la discipline spirituelle et c'est lié à la prière dans ces contextes-là. Donc, le jeûne ici fait simplement accentuer le concept de je prie Dieu en ayant vraiment l'esprit concentré vers la demande, la requête, la situation, elle est solennelle et donc c'est une réaction spontanée. C'est pas une obligation, si je peux dire. Mais bon, le Seigneur, en disant cela, il nous dit pas, si vous jeûnez, ça va être la recette miracle, secrète, et vous allez réussir à chasser des démons. C'était pas le point, mais c'est que dans un cas comme celui-là, c'est un cas vraiment particulier, ce cas-là dont il parlait. C'est pas une possession démoniaque standard, si je peux dire, comme on trouvait. C'était un cas vraiment particulier. Puis là, la discipline devait être intense. Et c'est un peu ce que le Seigneur veut dire ici. Sur le point de vue de la critique textuelle, c'est que on voit pas nécessairement ce jeûne-là dans toutes les traductions françaises. Parce que c'est un texte qui a été inséré dans les manuscrits plus tard. On n'est même pas certain. Est-ce que c'est la plume de Marc qui a vraiment rédigé ça? Et dans Marc, c'est un phénomène qui revient de temps à autre. En fait, toute la fin de l'évangile de Marc, le chapitre 16 et verset 9 à 20, sont contestés parce qu'on dit, ben, on ne les trouve pas dans les plus vieux manuscrits, c'est venu plus tard. Moi, j'hésite à parler de ça parce que je ne veux pas semer le doute sur la fiabilité du texte de la parole de Dieu, mais c'est un phénomène réel où il y a des versets qu'on trouve moins d'évidence dans les manuscrits, ils apparaissent plus tard dans l'histoire, etc. Et sur le jeûne, on retrouve ça à quelques endroits dans les Actes des apôtres aussi, où il est question de jeûne, et puis que ce serait peut-être un ajout fait par des scribes chrétiens plus tard, soit au 3e ou 4e siècle, ou même après, parce que c'était devenu une pratique de l'Église pendant cette période-là, de se concentrer dans la prière en jeûnant. Donc, c'est possible que ce soit sous l'influence du développement de la pratique de la prière dans l'Église des premiers siècles, plutôt qu'une exhortation directe du Seigneur. Moi, en fait, ça ne me cause pas de souci que ce soit une parole directe du Seigneur, qu'il ait vraiment dit ça au départ, même si on a peut-être perdu quelques manuscrits qui avaient ça au départ, mais peu importe, parce que, comme je le dis, le jeûne, on doit le comprendre comme une discipline spirituelle qui appuie celle de la prière. Et c'est jamais une formule magique, là. C'est pas la recette miracle, là. Pas du tout, là. Simplement, ça, c'est une réaction spontanée, et le jeûne doit être ça aussi. C'est une réaction spontanée, une décision qu'on prend parce qu'on veut se consacrer à la prière. Moi, les jeûnes, moi, je vous dirais bien ça, les jeûnes programmés, c'est bien si on le fait parce qu'on veut prendre un temps particulier, où on veut se concentrer dans la prière. Mais prendre le jeûne comme une espèce de recette qui va nous donner plus de succès dans la prière, moi, oublier ça, je crois pas à ça du tout, du tout. Je pense que ça devient de la religiosité puis du formalisme religieux. Mais quand on peut programmer un jeûne, je me rappelle que pendant quelques années, on faisait avec une église au Québec, une assemblée de frères à Sorel, on jeûnait, je pense, c'était un mardi, quelque chose comme ça, où on passait du temps à prier, puis cette journée-là, on voulait simplement mettre du temps dans la prière, puis on avait décidé de faire un jeûne accompagné ça, mais c'était pas on croyait pas parce que ça allait être plus efficace cette journée-là, c'est parce qu'on voulait vraiment se concentrer sur la prière. Est-ce que je réponds bien ou je suis en train de me perdre là-dedans?
Alors, je laisse Émilie réagir. Et pendant ce temps, une remarque de Marc-Olivier. On a parlé par rapport à cette femme syrophénicienne de cette bénédiction qui est d'abord réservée aux Juifs, hein. Et puis, il fait cette remarque que dans l'Ancien Testament, effectivement, les bénédictions sont réservées aux Juifs, mais il y a toujours ces histoires de non-Juifs qui montrent leur foi, comme Rahab, Ruth, Naaman. Et c'est vrai que tout au long de l'histoire du peuple d'Israël, il y a eu des non-juifs qui ont manifesté ce désir de reconnaître ces bénédictions de Dieu pour le peuple d'Israël, puis en recevant une partie pour eux.
C'est juste, même d'ailleurs, rappelez-vous que quand le Seigneur Jésus a donné l'exemple de ceux qui reçoivent par la foi la bénédiction de Dieu, il a cité les exemples de l'Ancien Testament qui sont des non-juifs et ça avait provoqué la colère des gens je crois que c'était Nazareth même, oui, qui avait donné l'exemple de Naaman le Syrien, puis cette femme aussi il me semble que c'est cette veuve de Sarepta. Voilà. Alors, dans le plan de Dieu, Israël a la priorité, mais c'était aussi dans le plan de Dieu que toutes les nations seraient bénies en Abraham. Hein? Alors, voilà. Mais c'était plus comme on l'a dit, hein, c'est le Seigneur, il mettait cette femme-là devant la priorité des bénédictions pour Israël. Elle l'a parfaitement accepté.
Une question d'Aurélie et Fabrice par rapport à l'expression porter sa croix. Est-ce que c'est une expression qui était connue avant la crucifixion de Jésus ou est-ce que l'expression a été introduite par l'évangéliste après, lors de la rédaction de l'évangile?
En fait, c'est dans l'enseignement direct du Seigneur. Hein? Enfin, donc, il n'y a aucun doute qu'on peut remonter l'origine, on peut retracer, pardon, l'origine de l'expression à l'enseignement du Seigneur. Ça, il n'y a aucun doute. Par contre, la crucifixion, c'était déjà un moyen utilisé par les Romains, apparemment, avec le peu de preuves qu'on a, mais on en a quand même, c'est un moyen utilisé pour l'exécution. Donc, je veux dire, l'image de la croix et puis sa portée était déjà très, très claire quand le Seigneur Jésus a enseigné, mais l'expression elle-même, du moins, elle tire son origine de l'enseignement du Seigneur Jésus. Est-ce que ça vient plus tard? Je dirais non, c'est clair que ça vient du Seigneur direct, mais par contre, est-ce qu'elle était utilisée avant dans... Ça, c'est une bonne question, ça, je ne sais pas. Faudrait que je vérifie s'il y a une origine qui remonte plus loin que l'enseignement du Seigneur. Est-ce que ça répond bien, ça?
Alors je laisse Aurélie et Fabrice réagir. Une autre remarque de deux personnes, deux participants différents concernant Jean 12, 28. Alors j'ai peut-être eu un petit lapsus au moment où tu en as parlé, mais il cite en fait le fait que dans ce verset, il semble que c'est la voix du Père. C'est Dieu qui parle dans la prière dans Jean 12, 28, si on reprend le verset. Alors, ça serait une troisième fois où le père
Ah
parle.
oui, super. Hey, c'est super ça. Puis, comme je n'ai jamais porté attention à ça, c'est super ce verset-là. Jean 12, verset 28, hein? Père, glorifie ton nom. Il vint donc une voix du ciel et je l'ai glorifié et je le glorifierai de nouveau. Puis les gens pensaient qu'ils avaient entendu un coup de tonnerre. C'est super. C'est quand ça que c'est dit exactement? C'est. Dans la pause, je vais chercher, je vais prendre l'harmonie des évangiles, justement, puis, ou si quelqu'un peut le faire, là, maintenant, puis nous situer cette phrase-là ou cet événement-là exactement d'un point de vue chronologique. Je suis curieux de savoir exactement c'est quand ça arrive. Jean 12, on est 6 jours avant la fête de Pâques, donc c'est une voie qui arriverait après la transfiguration, c'est clair, si c'est chronologique. Vous suivez mon raisonnement? C'est super, ça. Il y aurait trois places, ben, disons au moins, peut-être qu'il y en a une quatrième. Ouais, je ne me rappelais pas du tout de ça. Mais pendant la pause, je vais prendre le temps de regarder l'ordre chronologique de A.T. Robertson. Probablement que Carl Bruins le fait aussi, juste pour situer précisément c'est où que ça se passe. Quand on est dans Jean 12, et c'est là hein, qu'il me dit qu'on est 6 jours avant la fête de Pâques. Donc, techniquement, on est au début de la semaine de la Passion, là. Puis Jean 13, ça se passe la veille de la crucifixion, de Jean 13 à Jean 17, fin 17, début 18. Donc, ça se passe la veille, le jeudi dans la soirée. On est probablement là, tout juste avant, en pleine semaine, en plein début de la semaine de la Passion. Si c'est bien, si c'est correct, là, je vais le vérifier, puis je vous reviendrai tout de suite après la pause là-dessus. Ça va? Il reste 5 minutes.
Oui, j'ai encore
Est-ce qu'il y a d'autres questions?
deux, trois questions. Alors, une remarque ou une question de Jacques par rapport à la transfiguration. Comment est-ce qu'on peut comprendre le fait que Pierre a reconnu sans autre Moïse et Élie? C'est vrai qu'il n'y avait pas Wikipédia à l'époque, il n'y avait pas d'encyclopédie. Comment est-ce qu'on peut comprendre qu'il ait pu reconnaître Moïse et Élie? Bon, le texte ne dit pas grand-chose.
C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de commentateurs qui ont compris de ce passage-là que dans la gloire, on va se reconnaître. C'est un des passages qui est souvent utilisé d'ailleurs pour dire, pour installer la conviction dans le cœur du croyant que quand on est dans l'au-delà, quand on est dans la gloire de Dieu, on se reconnaît même si on s'est jamais vu, on sait qui est qui. Ça fait probablement partie du fait d'être dans la gloire de Dieu, d'avoir une connaissance qui dépasse celle qu'on peut avoir ici-bas dans notre contexte d'homme et d'expérience humaine standard, normale, si je peux dire. Donc, probablement, la meilleure réponse à ça, c'est que quand on est dans la gloire, il se passe quelque chose qui fait qu'on a une connaissance qui est plus élevée. Et puis, voilà, parce que c'est évident qu'ils n'avaient aucun portrait. Rien qui pouvait leur faire dire, voici, c'est Moïse et Élie. Il y en a qui ont quand même mentionné l'aspect peut-être vestimentaire, certaines parties de leur tenue, de leur habillement, de leur apparence qui pouvaient peut-être lier avec des textes de l'Ancien Testament, mais je crois que la réponse la plus simple et la plus crédible pour moi, c'est dans la gloire, il y a quelque chose de différent qui se produit dans l'expérience humaine.
Une question de Mathias. Comment les non-juifs étaient reconnus à cette époque? Ce n'était pas marqué sur leur front. Comment est-ce que les juifs pouvaient les reconnaître?
Une fois, j'étais en Israël, à Jérusalem, devant le musée de. Ouais, c'était le musée de Yad Vashem. Ouais, c'était le musée de l'Holocauste là-bas. Yad Vashem. Nom et la main et le nom. Autrement dit, les actions et l'identité de la personne. C'est un beau musée, mais c'est dur. Puis là, j'étais à l'extérieur et puis je faisais signe à des taxis d'arrêter pour me prendre. Et puis là, je leur disais, je dois me rendre sur la montagne des Oliviers. On avait le Mount of Olives Hotel, qui est juste sur le sommet de la montagne des Oliviers. Et là, dès que je disais Mount of Olives, le taxi s'en allait. Et puis, il est arrivé quelqu'un, un vieil homme, à côté de moi, à pied sur la rue, puis il m'a dit, ils ne veulent pas te prendre. Je dis non, j'ai dit, dès que je dis que je vais me rendre sur la montagne des Oliviers, ils s'en vont. Ben, il dit, c'est parce que c'est un chauffeur. Vous dites ça, un chauffeur de taxi. Je ne sais pas si on dit comme ça chez vous ou un
Oui.
conducteur, mais enfin, c'est un chauffeur juif. Et puis les Juifs ne vont pas aller sur la montagne des Oliviers parce que c'est en plein cœur de la Cisjordanie. OK. Et puis, vous faites comment pour savoir que c'est un juif? Mais c'est pas une question de parce qu'il y avait un signe particulier, mais même le visage, même pour moi, là, un juif et un Palestinien, c'est pareil. C'est la même chose, pour moi. Mais pour eux, ils savaient, ils pouvaient, enfin, ils se trompent pas. Ils savent si c'est un juif ou un non-juif, oui, un non-juif ou etc. Donc, oui, ils ont une connaissance, ils pouvaient savoir exactement qui étaient les personnes. Les apôtres, quand ils apparaissent à la Pentecôte, quand ils apparaissent les 12 ensemble, là, avec celui qui a remplacé Judas, les hommes qui les voient, ils disent, hey, ce sont tous des Galiléens. Et puis, non seulement c'était des Juifs, mais de la région de Galilée. Bon, il y avait leur accent, il y avait peut-être certains autres aspects qui pouvaient les identifier, mais c'était impressionnant à quel point dans ce coin du monde, ils savent bien reconnaître les gens et dire, ah, lui, c'est telle personne, lui, il vient. Ce qui est peut-être moins évident pour nous dans notre monde. Mais, par contre, il y a quand même certaines caractéristiques qui font qu'on peut quand même identifier telle ou telle d'une même race provenant d'une région différente. Donc, ce n'est pas si, comment je dirais, ouais, on pouvait assez aisément reconnaître des gens par différentes caractéristiques, mais simplement d'un regard, ils savaient si ces gens-là étaient soit galiléens ou s'ils étaient juifs ou non juifs, etc. Ouais, c'est impressionnant ça quand même.
Une autre question d'Éric. On voit que le Seigneur prie souvent le matin, donc est-ce qu'on peut supposer qu'il est à jeun? Pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure sur la liaison entre le jeûne et la prière.
Ouais, c'est possible. C'est intéressant que la parole de Dieu ne mentionne pas beaucoup cet aspect de la vie du Seigneur, sinon que pour dire qu'il n'avait pas le temps de manger. C'est plutôt ça qu'on voit. Bon, on le voit quand même être reçu pour des repas. On le voit de temps à autre. Mais dans le contexte de la prière, par rapport à la culture et aux coutumes de l'époque, on peut présumer qu'effectivement, le Seigneur priait à jeun, qu'il n'avait pas encore mangé, mais on peut simplement émettre une hypothèse ici par rapport à ce qui se faisait dans la culture, mais sans être absolument certain. Il y a très, très peu de textes qui mettent l'accent là-dessus ou qui le soulignent, mais on peut le présumer.
Par rapport à sa question, Émilie te répond, te remercie, mais elle remarque que ça laisse quand même une certaine liberté à l'interprétation par rapport au jeûne et à la prière.
Oui, c'est juste. Remarquez qu'il n'y a pas d'enseignement direct clair là-dessus dans les Épîtres. Tu sais, c'est vraiment, c'est un peu flou. Et donc, ça suggère assez bien dans le Nouveau Testament que le jeûne, c'est quelque chose qui est individuel, sur une base volontaire, spontanée. voilà, une discipline aussi quelque part selon ce qu'on est en train de vivre et ce qu'on veut apporter devant Dieu. Mais c'est très général, oui.
Alors maintenant, une réponse de deux participants, Johan et Marc-Olivier, par rapport à la question qu'on a eue tout à l'heure sur Jean 12, 28, où tu te demandais à quel moment on se trouve dans l'histoire, enfin dans le ministère de Jésus. Alors, ils ont découvert dans le livre de Corbrins qu'on est au troisième jour de la semaine de la Passion, donc le mardi, page 404.
Super, parce que si c'est vraiment comme ça, c'est une des journées les plus pénibles. Bien sûr, en excluant la journée de la crucifixion, le vendredi, mais le mardi est probablement la journée la plus pénible de la semaine de la Passion parce qu'il y a eu beaucoup de conflits dans cette journée-là. On va le voir plus tard. Merci beaucoup pour la recherche. C'est super intéressant, franchement. C'est comme si c'est un boost d'encouragement du père au fils là, dans une journée pénible quelques heures à peine avant la crucifixion. Super intéressant. Ça. C'est beau, la Bible. Hein? C'est incroyable.
Et au sujet du même verset, une remarque de Pierre qui a noté que dans les notes de John MacArthur, il est écrit « La voix du Père s'est fait entendre que trois fois au cours du ministère de Jésus ». Donc, c'est une confirmation de ce que tu as dit précédemment.
Super. Wow. Ah, mais ça, franchement, moi, je ne me rappelais pas du tout. Écoute, j'aurais échoué lamentablement si on m'avait fait faire un examen combien de fois le Père a fait entendre sa voix du ciel. C'est clair, j'aurais dit deux fois, pas trois. Mais là, je pense que ça va rester. Ça vient de m'impressionner solide. Là. C'est super. Moi, merci, Seigneur. C'est ça, être ensemble. Hein? Puis des frères et sœurs qui partagent, puis un fait réaliser quelque chose à l'autre. Moi, je trouve ça super, hein, franchement. Merci, Seigneur. Quelle bénédiction d'être ensemble.
L'heure est là. On va faire une 10 minutes de pause.
Merci.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.